7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, gros plan sur la rentrée universitaire en France sous le signe du Covid-19 et de l'augmentation inexorable des effectifs étudiants avec des moyens qui ne suivent pas. Des dizaines de clusters sont recensés sur les campus. De nombreux étudiants dénoncent l'impossibilité d'appliquer les gestes barrières et une désorganisation, un chaos qui ne cesse de s'amplifier avec par exemple des étudiants qui mettent des semaines à faire leurs inscriptions pédagogiques. Alors quel risque de décrochage aussi pour les étudiants en cette rentrée universitaire de tous les dangers où la majorité des cours se déroulent, en tout cas la moitié à distance, derrière son écran d'ordinateur. Nous allons en discuter avec un syndicat étudiant. Bonjour Paul Maillot.
Bonjour.
Vous avez 21 ans, vous êtes le nouveau président de la FAGE donc, depuis septembre dernier, la Fédération des Associations Générales Étudiantes. C'est le syndicat majoritaire étudiant et vous êtes vous-même étudiant à...
Nancy.
D'accord.
En management public.
En management, voilà. Et là, vous êtes en année de césure pour vos fonctions de président et de syndicaliste étudiant. Un syndicat des enseignants également avec nous. Bonjour Anne Roger.
Bonjour.
Co-secrétaire général du SNESUP-FSU, c'est le syndicat national de l'enseignement supérieur. Vous êtes vous-même enseignante en sciences et techniques des activités physiques et sportives, les fameuses STAPS, toujours engorgées.
Toujours engorgé.
À l'université Claude Bernard de Lyon 1. Et en fin d'émission, un tout autre sujet, beaucoup plus apaisé, la chronique du psychologue Ibrahima Giroud à Dakar. Comme chaque semaine, parents, enfants, d'ici et d'ailleurs, des conseils pour la parentalité. Aujourd'hui, il nous expliquera que malgré les inquiétudes des parents, l'enfant trouve un chemin pour se développer. Allez, c'est parti. On s'attelle à cette fameuse rentrée universitaire en France.
7 milliards de voisins.
Ouais. 7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Oui, Zolo.
Soyez les bienvenus.
Mais tout de suite, reportage à l'université Paris-Nanterre. 34 000 étudiants inscrits cette année avec 19% d'étudiants étrangers. Alors on a une rotation des effectifs sur 2 semaines pour alterner les cours à distance et la présence sur le campus. 16 amphithéâtres sont équipés pour assurer les captations, les retransmissions des cours en vidéo. Grâce à la CEVEC, la contribution de vie étudiante et de campus, elle a aussi confié des ordinateurs portables et des clés 3G aux étudiants qui n'en avaient pas. Et aujourd'hui, que ce soit en présentiel ou à distance, les cours tentent de se poursuivre. Notre reporter Inès Edel Garcia s'est rendue hier matin sur le campus. Elle a rencontré la vice-présidente de l'université et Seiba, un étudiant malien qui fait la liste de toutes ses difficultés à cause de la pandémie.
Quand tu viens dans un pays où tu connais presque rien et tu viens dans une université, tu connais personne, c'est très compliqué. Si les facs ne reçoivent plus la majorité d'étudiants, ça va être compliqué de rencontrer des gens parce qu'on ne sera pas forcément tout le temps à la fac, à l'université, pour se rencontrer, pour discuter, pour continuer à accompagner l'étudiant pour qu'il puisse s'intégrer, apprendre vite les choses et s'adapter à ces choses-là et continuer à sa formation. Et d'habitude, on les accueille, on essaye de faire une sorte de convivialité, et de discuter avec eux, de nous parler de leurs problèmes, ce qu'ils ont besoin, et de leur proposer une personne qui, ici, ils ont besoin, qu'ils appellent la personne, qu'ils posent petites questions pour qu'ils puissent l'accompagner, en fait.
Une personne ressource.
Une personne ressource. Chaque année, on essaie aussi de proposer des activités aux étudiants qui sont sur place. Mais effectivement, cette année, on n'a pas pu les réaliser. C'est pas juste les soirées étudiants. Même les grandes activités festives des journées, par exemple nationales des étudiants maliens d'Île-de-France, on n'a pas pu les réaliser à cause du manque de salles pour réaliser cette activité majeure. Pour l'association, on n'a pas pu l'organiser. Et la journée d'accueil pour les nouveaux étudiants qui vont venir dans l'espace, les différentes universités, on n'a pas pu les faire aussi pour les accueillir et leur donner des informations précises.
Concernant l'enseignement à distance, comment ça se passe pour les étudiants ?
et en particulier les étudiants étrangers?
Déjà, on était confrontés à plusieurs difficultés. Et avec cette pandémie, il y a d'autres difficultés qui sont venues s'ajouter. Voilà, et nous, en tant qu'étudiants étrangers, on n'était pas prêts au niveau matériel, au niveau financier et même au niveau pédagogique. Parce que je prends l'exemple du Mali, et quand on est au Mali, l'informatique, on n'est pas familiarisé avec. Et quand on vient ici avec la pandémie, on a une très majorité de nos cours qui sont dans cours en ligne, dont il faut passer absolument par l'informatique. Et si tu n'es pas familiarisé avec cette informatique, tu auras forcément des difficultés. Voilà, donc nous, on n'était pas prêts, mais il faut s'adapter, s'approprier cet espace pour vraiment réussir ces différents cursus universitaires.
Drôle d'ambiance donc pour les nouveaux étudiants et a fortiori pour les étudiants étrangers. On fait le point avec Sonia Lehmann-Frisch, la vice-présidente en charge des relations internationales à l'Université Paris-Nanterre.
Nous sommes une université où la population étudiante internationale est très importante, puisque sur nos 34 000 étudiants, c'est près de 6 500 étudiants qui sont des étudiants étrangers, soit à peu près 19% de la population étudiante totale. Maintenant, ces étudiants étrangers, il faut vraiment distinguer deux populations très différentes. D'une part, les étudiants d'échange, les étudiants de Nanterre qui sortent en échange d'une part, et puis les étudiants d'échange qu'on accueille d'autre part. Et puis d'un autre côté, les étudiants internationaux qui viennent s'inscrire dans nos diplômes hors échange, mais vraiment inscrit au titre d'étudiant plein et entier de l'Université Paris-Nanterre. De manière différente, ces deux populations internationales ont évidemment vécu de plein fouet cette crise de la pandémie. En ce qui concerne les étudiants internationaux dans nos diplômes, qui sont bien plus nombreux que les étudiants d'échange, le déroulement de cette campagne d'admission des étudiants étrangers a eu lieu en plein Covid et d'une part a été retardée. C'est-à-dire que les commissions pédagogiques ont mis plus de temps à faire parvenir les réponses. Et puis ensuite, lorsque les réponses étaient positives, les espaces Campus France ont mis plus de temps à délivrer les visas. Sans compter qu'il y a un certain nombre de pays qui ont décalé carrément leur baccalauréat. Donc tous les jeunes lycéens qui candidataient à un diplôme français en L1 n'ont pas eu les documents à temps. C'est le cas en particulier de l'Algérie, du Gabon, du Nigeria, du Sénégal, du Vietnam, enfin d'un certain nombre de pays qui en plus sont traditionnellement des candidatures en nombre important dans les universités françaises. Sans compter qu'une fois la crise déclenchée, ça a eu un impact sur certaines fermetures de frontières, bien entendu, sur la diminution des vols et donc l'augmentation des coûts. Et voilà. Et donc à ce stade, on ne connaît pas encore le nombre d'étudiants qui sont effectivement inscrits à l'université. C'est encore à stabiliser ces chiffres-là. Ce qui est absolument certain, c'est que la baisse de nombre d'étudiants qui viennent par cette procédure études en France et qui sont des étudiants étrangers sera bien moins importante que les années précédentes.
Anne Roger, vous représentez le syndicat de l'enseignement du supérieur pour les enseignants. Donc, la rentrée universitaire est compliquée pour les étudiants étrangers, peut-être encore plus que pour les étudiants lambda.
Oui, effectivement, ce qui est intéressant dans le reportage, c'est que le jeune étudiant là, dont j'ai pas noté le nom, évoque des problèmes humains. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance à parler de problèmes technologiques. Hein. On a tendance à résumer un petit peu la rentrée à bon, il suffit de basculer en distanciel et d'utiliser le numérique. Mais il y a des gros problèmes humains aussi. Et ce qui souligne l'intégration passe aussi par oui. Les relations humaines. Et donc ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est quelque chose qu'on vit tous les jours, qui est peu évoqué. Et ça se passe également pour les enseignants, parce que le lieu de vie qu'est l'université est peu à peu déserté. Et donc, voilà.
Les premiers jours de la rentrée universitaire, on avait beaucoup évoqué les amphithéâtres bondés, on avait le fameux hashtag balance ta fac avec des photos assez édifiantes. On a quand même l'impression que là, c'est un peu rentré dans l'ordre. Donc avec le 50-50, 50% en distanciel, les étudiants restent bien sagement derrière leur ordinateur chez eux. Du coup, ça donne des photos, on va dire, plus clean. Paul Maillot.
Pour celles et ceux qui ont la possibilité de se pourvoir en matériel pédagogique, déjà, pour ceux qui restent chez eux, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes et tous. Et c'est un problème qui est beaucoup plus lointain que cette simple rentrée universitaire. Simple, quand je dis simple, c'est voilà, avec la crise qui vient s'y rajouter, mais les problèmes de capacité d'accueil, c'est des choses qui sont présentes depuis des années et qui n'ont été mis qu'au goût du jour et à la lumière qu'avec cette crise du Covid-19.
Ouais. Globalement, là, c'est quoi le bilan de cette rentrée universitaire, Anne Roger ?
Alors, c'est d'abord une grande fatigue déjà, et ça, c'est très inquiétant, parce que ça fait, pour certains collègues, certains collègues sont rentrés depuis un mois à peu près, mais d'autres depuis 15 jours, et il y a une grande fatigue qui est annoncée, enfin, qui est affichée par tout le monde.
Pour les enseignants.
Enseignants, je suppose que les étudiants aussi, du coup, et les personnels, une grande fatigue psychologique qui laissera vraisemblablement des traces, et un grand désordre, quoi qu'on en dise.
Alors, oui, je citais le grand désordre des inscriptions pédagogiques, où les sites internet ne sont pas au point. Quand on va voir les responsables administratifs dans les bureaux, ils ne sont pas là. Comment on s'y retrouve dans ce dédale, Paul Maillot ?
C'est assez compliqué. C'est un besoin d'accompagnement pour les jeunes qu'ils n'ont pas à l'heure actuelle, pour les inscriptions pédagogiques. Et ça, pour encore une fois, celles et ceux qui peuvent s'inscrire. Comme ça a été souligné dans l'interview qui a précédé ces interventions, il y a le problème des visas qui sont délivrés.
Pour les étudiants étrangers.
Pour les étudiants internationaux, tout à fait. Et en l'occurrence, on a vu, en courant septembre, 65 000 visas qui ont été demandés, un peu plus de 46 000 seulement qui ont été délivrés. Et il y a certaines universités qui ont pris la décision, du coup, de reporter le délai d'inscription jusqu'à demain, du coup, jusqu'au 15. C'est des choses qui sont encore compliquées à mettre en place. Il y a encore une fois aussi d'autres établissements qui ont hybridé et qui laissent la possibilité pour les étudiants internationaux de suivre les cours à distance, donc chez eux, sans pour autant venir, ce qui reste encore une fois très compliqué pour celles et ceux qui ne sont pas familiarisés avec l'utilisation des outils numériques.
Alors, l'enseignement à distance pour tous les étudiants dans les universités en France aujourd'hui, ça pose quel problème ? Parce que là, ça concerne les universités d'Île-de-France, d'Aix-Marseille, ça concerne combien d'universités aujourd'hui ?
Alors, au-delà des universités, c'est très établissement dépendant. Au sein des universités, il y a des établissements, des composantes qui décident d'hybrider ou non leurs enseignements. Ça pose...
Hybrider, c'est-à-dire ?
Faire à la fois du présentiel et à la fois du distanciel. Donc, ça peut être une semaine sur deux, avoir des jeunes qui viennent en cours en présentiel, et l'autre semaine, une semaine impaire par exemple, qui suivent les cours en distanciel, ce qui pose quand même la grande question du décrochage scolaire.
Et des problèmes pédagogiques
rencontrés par les
enseignants pour organiser tout ça et pour essayer de faire en sorte que tout le monde s'y retrouve, parce que quand on doit gérer des demi-groupes, puis des quarts de groupe, puis des groupes entiers, et puis essayer de voir qui vient cette semaine-là, qui vient la semaine d'après, et comment on gère ce qu'on a fait avec les uns en présentiel, ce qu'on a fait avec les autres en distanciel, et qu'un étudiant doit venir en présentiel de 8 à 10 et en distanciel de 10 à 12 et qui doit se connecter sans avoir de lieu pour se connecter. Bon, je peux faire encore une liste qui est très grande.
C'est kafkaïen.
Voilà, c'est un peu surréaliste.
Étant donné la progression du virus à l'heure actuelle en France, est-ce que l'enseignement à distance à 100% est envisagé aujourd'hui par l'université ou pas ?
Je pense que s'il y a une décision de fermer les universités, ce que nous on ne souhaite pas, une fermeture totale, il y aura sans doute cette option qui sera envisagée. Mais par contre, avec quelles conséquences ? Parce qu'on n'est pas prêt. De toute évidence, on n'est pas prêt à faire du tout distanciel et à faire réussir les étudiants dans ces conditions-là.
Vous voulez dire ?
Le techniquement et humainement, de toute façon, les deux, je préfère qu'on ne dissocie jamais les deux, parce qu'il n'y a rien qui ne se résume.
Techniquement et pédagogiquement.
Pédagogiquement et humainement aussi. Ouais.
Comment on va éviter le décrochage scolaire, là ?
C'est compliqué. C'est très, très compliqué. Une des solutions pour éviter le décrochage scolaire, c'est de continuer à maintenir des cours qui soient en présentiel, parce que imaginez aussi des jeunes qui arrivent, des néo-bacheliers, qui n'ont jamais connu les bancs de la faculté, qui arrivent là dans l'enseignement supérieur, qui n'ont jamais suivi de cours en présentiel, et puis même pour les enseignants, qui c'est pas la même chose d'enseigner à travers un écran, on transmet pas les choses de la même façon, et pour les jeunes, la seule possibilité, c'est vraiment d'avoir du concret, d'être en cours, et à défaut d'avoir un accompagnement particulier.
Et du coup, ça nécessiterait, si on basculait sur du distanciel total, mais ce qui est vrai aussi sur de l'hybride, hein, de toute façon, une multiplication quand même des enseignants, parce que si on veut amener des étudiants qui sont à distance à rester connectés, à faire quand même le travail à distance, il faut des gens pour suivre. Or, il n'y a pas suffisamment.
Rappelons déjà, en temps normal, hors Covid-19, quel est le chiffre de l'échec en licence en France aujourd'hui ? Il est très important ?
Oui, alors j'ai pas les chiffres exacts, mais effectivement, je voudrais pas m'avancer sur un chiffre, mais c'est de toute façon une question qui a été prise en charge depuis quelques années pour essayer de trouver des solutions. On a mis en place des parcours de remédiation qui fonctionnent pas très bien. Il y a eu tout un tas de parcours un peu d'accompagnement mis en place, mais on se rend bien compte
des remises à niveau hein, pour des étudiants qui se retrouvent affectés dans des filières qui ne correspondaient pas du tout ni à leur niveau ni à leur projet professionnel. On les a affectés là parce que c'est des filières peu demandées, donc on se retrouve parfois avec une inadéquation entre le profil de l'étudiant et la filière.
Ce qui ne fait qu'aggraver l'échec, évidemment, puisque un étudiant qui n'est pas dans la filière qu'il souhaitait, de fait, sera en difficulté pour réussir dans cette filière-là. Oui.
L'AFAGE a commandé une étude, Ipsos, au lendemain du confinement, pour savoir, en gros, comment allaient les étudiants. Quel est l'état d'esprit ? Qu'est-ce que ça révèle là, du mal-être des étudiants ?
En termes de mal-être profond et de santé, de manière plus générale, on a 73% des jeunes, 18-25, qui déclarent avoir été affectés psychologiquement, affectivement ou physiquement. Au-delà de la question de la santé physique, ce qui est une réelle question à l'heure actuelle, puisqu'on a aussi dans cette même enquête 30% des jeunes qui déclarent ne pas avoir pu avoir recours à des soins faute de moyens financiers. On a la question de la santé mentale, puisque, encore une fois, le confinement, c'est des choses inédites pour les jeunes. Et là où on a 69% des jeunes qui déclarent avoir eu et ressenti le besoin d'être écoutés, d'être suivis psychologiquement, parce que c'est une situation qu'ils ne connaissent pas. Beaucoup de peine, au-delà de la double peine de la situation financière, de l'augmentation des dépenses, c'est une autre peine au niveau académique, puisque au niveau de la dématérialisation totale avec le confinement, ils se sont retrouvés dans des situations de mal-être profond.
Avec des étudiants qui ont décroché pour l'année qui s'est terminée juste avant l'été, on avait 84% des étudiants qui étaient en décrochage après le confinement. Est-ce qu'ils sont retombés sur leurs pieds ou pas ?
Alors, c'est encore une fois assez mitigé. On ne peut pas, là aujourd'hui, faire un état des lieux, puisque c'est trop disparate en fonction des territoires, en fonction des établissements, au sein des établissements. Mais c'est encore une fois très compliqué, puisque effectivement, 84% de taux de décrochage de jeunes qui avaient déclaré être en situation de décrochage pendant le confinement, ça c'est avec du coup une dématérialisation totale. Là, à l'heure actuelle, on est sur de l'hybridation, donc sur du 50-50, parfois
cours
du
à distance
numérique,
et cours à la fac, ouais.
Totalement. Et on peut s'attendre quand même à ce que ce soit des chiffres qui s'en rapprochent.
La précarité étudiante, on en parle beaucoup en temps normal, elle est pire avec le coronavirus ?
On n'a jamais eu des chiffres aussi inquiétants. À la FAGE, depuis le lancement des Agorae, donc nos épiceries sociales et solidaires en 2011, en quelques mois, on a explosé les chiffres de bénéficiaires et de personnes qu'on a pu aider que depuis la création en 2011.
Ouais, en quoi ça consiste ces épiceries solidaires ?
Les épiceries sociales et solidaires, les Agorae, c'est un endroit où des jeunes qui sont en situation de précarité peuvent se rendre pour avoir à la fois des produits qui se trouvent entre 10 et 20% du prix du marché, mais également un endroit où se retrouver pour créer du lien social, pour tisser un petit peu des liens avec des personnes, notamment pour celles et ceux qui sont en situation d'isolement.
Ça veut dire des étudiants qui ont des difficultés, clairement. Vous parliez tout à l'heure de soins, d'accès à la santé, mais qui ont aussi des difficultés même à se nourrir. Les demandes dans ces épiceries solidaires ont explosé.
C'est presque 30 000 paniers distribués depuis le début de la crise sanitaire et plus de 12 000 bénéficiaires, ce qui est assez incroyable quand même. On n'a jamais eu ça, encore une fois, depuis la création des Agorae en 2011. Et toujours pour revenir à l'enquête Ipsos, on a 74% des jeunes qui ont déclaré avoir rencontré des difficultés financières pendant la crise sanitaire. Ça ne s'arrête pas à l'alimentation, il y a la question du logement. Oui. Également la question du logement, puisque, encore une fois, pour revenir aux visas qui sont nécessaires, au final, au délai d'attribution pour voir un logement pour les étudiants internationaux, on se retrouve avec énormément de jeunes qui sont dans la rue, dans des campings, en parallèle de la poursuite d'études. À Angers, Strasbourg, Grenoble et Troyes, par exemple, des fédérations du réseau de la FAGE ont dû développer des dispositifs de logement provisoire parce qu'il y avait des étudiants qui n'avaient tout simplement pas de logement.
On parle de 20% d'étudiants sous le seuil de pauvreté, c'est sous-évalué ?
À l'heure actuelle, c'était, oui, je pense, l'étude de l'OVE, donc de l'Observatoire de la vie étudiante, date de 2016. Là, à l'heure actuelle, je pense qu'on, oui, c'est vraiment sous-évalué.
Je trouve que c'est intéressant d'entendre Paul parler de ces deux thématiques pour les étudiants, parce qu'il me semble que ça rebondit vraiment sur les enseignants de la même manière. Comment on étudie dans ces conditions, mais aussi il a évoqué la santé des étudiants, santé mentale des étudiants, et puis la précarité des étudiants. Je pense qu'on peut avoir les deux exactement les mêmes, le parallèle avec les enseignants, c'est-à-dire que les enseignants aujourd'hui, en termes de santé mentale entre guillemets, peut-être physique aussi. Mais ils sont frustrés, ils se sentent isolés psychologiquement, ils sont fatigués, frustrés parce qu'ils ne peuvent pas faire leur métier comme ils veulent et ils savent que les étudiants face à eux, ben, ils ne vont pas les amener à réussir comme d'habitude. Et puis, on a aussi beaucoup de précaires chez les enseignants.
Vous restez avec nous, Anne Roger et Paul Maillot. On va parler de la démographie étudiante qui augmente, hein, les effectifs étudiants augmentent sur les campus. Les moyens ne suivent pas et il y a des revendications urgentes. On en discute juste après Synapson Pongo.
No beat, pra vos mostrar que nada é impossível.
Milliards de voisins, on est en direct sur RFI, on parle éducation aujourd'hui, on parle de la rentrée universitaire en France sous le signe du coronavirus et du chaos. Grande désorganisation sur les campus, moitié des cours en présentiel dans les facs et puis moitié des cours en général, hein, derrière son écran d'ordinateur à distance avec des cours en vidéo quand ils sont assurés correctement. On en discute avec vous, Paul Maillot, vous représentez le principal syndicat étudiant, la FAGE, et vous, Anne Roger, vous présenter le syndicat de l'enseignement du supérieur pour les enseignants, les personnels des universités. Vous nous le disiez, Paul Maillot, énorme précarité qui augmente chez les étudiants, du fait d'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais parce qu'ils ne peuvent plus avoir de petits boulots étudiants, parce que les étudiants en France, pour une grande partie d'entre eux, arrivaient à subsister parce qu'ils avaient des petits boulots étudiants jusqu'à 20 heures par semaine, voire plus, hein, Paul Maillot.
Oui, voire plus, et effectivement, c'est une double peine à laquelle on assiste pour les jeunes.
Et là, il n'y a plus de petits boulots dans les restaurants, etc., etc.
On a à la fois l'augmentation du coup, des coûts liés au matériel pédagogique numérique, liés à l'achat des masques à pourvoir, et on a une drastique baisse des ressources, que ce soit pour les foyers, les ménages sur lesquels sont rattachés les jeunes, puisqu'on a eu une grosse augmentation des pertes d'emploi de la part des foyers parentaux, et également des jeunes qui ne peuvent tout simplement plus travailler, puisque les secteurs qui ont été principalement touchés au niveau de la crise sanitaire, c'est ceux du tourisme et de la restauration, où se tournaient de nombreux jeunes pour travailler. Mais,
notamment l'été.
Notamment l'été, pour capitaliser sur l'année à venir. Mais c'est un problème qui touche également le corps enseignant et...
Anne-Roger, vous nous disiez en début d'émission que finalement la crise a révélé les fragilités du système universitaire. On ne découvre pas d'ailleurs les problèmes de l'université en France avec le coronavirus. On savait déjà qu'on a une démographie étudiante qui augmente depuis une dizaine d'années. Et puis derrière, qu'est-ce qui se passe ?
Ben, pour le moment, on attend toujours les plans qui viseraient à remettre à niveau l'université. Mais c'est vrai que cette année, on accueille 57 000 étudiants supplémentaires, dont 35 000 n'étaient pas attendus, puisqu'il y a eu une réussite assez importante, plus importante que prévue au baccalauréat.
Bon, le bac, il a quand même été donné dans une pochette surprise, en tout cas délivré avec plus d'indulgence en raison du confinement, 95% du taux de réussite. D'ailleurs, ça s'est fait en mai 68, il y a eu une cohorte comme ça qui a eu le bac. Bon, il n'y a pas eu de drame, les gens se sont ensuite insérés professionnellement. Mais du coup, effectivement, là, ça ne fait qu'alourdir les amphithéâtres.
Ça ne fait qu'alourdir les amphithéâtres, et puis on n'a pas eu de recrutement d'enseignants pour faire face à la situation. Donc de fait, on a éventuellement des contractuels qui sont mobilisés pour venir faire quelques heures, pour tenter de faire les heures qui manquent, mais ça ne suffit pas. On a des enseignants quand même qui sont... On a 130 000 vacataires en France qui font des heures, parfois c'est leur seule source de revenus. On a des contractuels qui se multiplient, puisqu'on a eu, on a une augmentation du nombre d'étudiants et parallèlement une diminution du nombre de recrutements sur des postes de titulaires. Alors évidemment, il y a une floraison de contractuels, dont certains sont des gens qui ont une grande expérience et une formation à Bac+8, puisqu'en général, les contractuels sont recrutés, ça peut être des gens qui ont une thèse, Bac+8, payés 1 800-1 900 euros, qui font un emploi du temps complet, à qui on demande en termes d'enseignement, à qui on demande en plus de faire de la recherche, et qui peuvent être jetés, entre guillemets, au bout d'un an, et qui ont parfois 40, plus de 40 ans. Et voilà, c'est ce qu'on offre comme perspective aux enseignants dans le supérieur. Donc, il est urgent de faire un grand plan de recrutement de titulaires pour éviter ce genre de situation.
On a ouvert des places. L'État a bien rouvert 21 000 places supplémentaires au lieu des 10 000 prévues, parce que là, c'est vrai qu'on a une augmentation des effectifs de 7% par rapport à 2019.
Oui, mais il faut dissocier la communication faite par la ministre qui annonce effectivement Frédéric Vidal, qui annonce l'ouverture de 21 000 places, et la réalité quotidienne dans les...
Ça veut dire quoi quand on ouvre des places concrètement?
Justement, ça veut dire qu'on donne l'autorisation d'ouvrir des places et qu'éventuellement, on financera à hauteur entre 2000 et 4000 euros sur les calculs qu'on avait fait.
Par
tête d'étudiant, ce qui est largement insuffisant. Et les annonces sont arrivées cet été, au cœur de l'été, alors que les emplois du temps, vous le savez bien, on ne les fait pas le 31 août. Et ils sont faits fin juin, et on a organisé la formation fin juin. Fin juin, juillet, etc.
Ça veut dire que quand on ouvre 21 000 places supplémentaires, derrière, il n'y a pas de profs supplémentaires.
Il n'y a pas de profs supplémentaires, il n'y a pas de salles supplémentaires, il n'y a pas d'investissement dans les locaux. Donc comment voulez-vous les ouvrir, ces places ? Donc c'est une déclaration d'intention qui n'est pas suivie des faits.
Ces trois dernières années, le budget moyen des universités a augmenté de 1,3% par an. Ça éponge quoi, cette augmentation ?
En tout cas, ça ne suffit pas du tout à éponger la hausse démographique et je vous dis, le recrutement qui est absolument indispensable. Nous, on a chiffré depuis un moment la nécessité d'investir 3 milliards d'euros par an pendant 10 ans pour remettre à flot l'université. Et on a chiffré aussi à 6 000 recrutements de personnel toutes catégories confondues, y compris les administratifs, parce qu'il n'y a pas que des enseignants qu'il faut quand on a des étudiants qui arrivent, il faut les inscrire, il faut les suivre, etc. Donc il faut des administratifs, il faut des enseignants. Et donc, il en faudrait 6 000 par an pendant 10 ans pour remettre à flot l'université. Et là, il y a le Covid qui arrive là-dessus et qui nous demande de dédoubler les cours, d'accueillir...
L'État a débloqué 35 millions en plus des 25 millions, des 21 millions annoncés cet été. On est très loin des chiffres que vous citez, vous, en termes de besoins, Anne Roger ?
Ah bah très, 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 très loin, oui, puisque là, pour cette rentrée, rien que pour cette rentrée, sans compter le retard déjà accumulé, il faudrait 250 millions d'euros pour faire fonctionner à peu près, quoi. Fonctionner à peu près, je dis bien.
Parce Alors, que... ceci dit, toutes les universités ne font pas face aux mêmes difficultés. Il y a des universités qui s'en sortent pas trop mal.
C'est encore une fois assez disparate. On se retrouve avec des universités qui, quand même, dans la grande majorité, se retrouvent en difficulté. Et effectivement, par manque d'investissement, tout simplement de la part du gouvernement.
Mais on peut rajouter que le financement aujourd'hui se fait souvent par appel à projet sur certains dossiers, et que quand on fait des financements par appel à projet, de fait, il y en a qui sont élus, il y en a d'autres qui ne sont pas élus, et donc c'est toujours un petit peu les mêmes qu'on arrose en termes de financement.
Et vous voulez dire les universités prestigieuses, dynamiques?
Celles qui ont les moyens de monter des projets qui répondent aux critères de l'Agence nationale de la recherche, par exemple. Donc là, cet été, par exemple, sur la question du distanciel, il y a eu un appel à projet qui a été lancé sur l'hybridation des formations dans l'enseignement supérieur. Donc au total, il y a eu 22 millions, puis après à nouveau 35 millions annoncés dans ou 30 millions annoncés dans le plan de relance. Donc on débloque ici 50 millions d'euros sur appel à projet. Ça veut dire que ce n'est pas pour toutes les universités. Donc celles qui ont l'argent, elles vont pouvoir créer des formations hybrides dans de bonnes conditions, et les autres, on les laisse.
Alors vous enseignez, Anne Roger, dans une filière qui est particulièrement en tension, les STAPS, pour les personnes qui vont avoir une activité professionnelle dans le sport. Il y a aussi la psychologie, les filières paramédicales.
Le droit aussi.
Le droit aussi, parce qu'en plus le droit, c'est difficile d'aller dans le secteur privé, dans les écoles privées pour étudier le droit. Ces filières-là sont particulièrement sous-financées ou pas ?
C'est pas tant en termes de sous-financement qu'en termes de création de places pour les étudiants. Oui, de fait, donc du coup, elles sont sous-financées et elles sont sous-dotées, en tout cas, en termes de nombre d'enseignants qu'il faudrait pour accueillir les étudiants qui souhaitent aller dans ces filières. Et les 20 000 places annoncées dans le plan de relance, parce que le plan de relance avait annoncé 30 000 places créées sur 2 ans, donc 10 000 à cette rentrée, puis 20 000 à la rentrée prochaine, sont surtout fléchées sur les filières paramédicales plutôt que ces filières-là. Donc,
j'ai évoqué le secteur privé, vous n'avez pas, levé les yeux au ciel, je suis étonnée, Paul Maillot, mais par exemple, vous étudiez le management, vous pourriez étudier dans une école de commerce privée.
Quel intérêt aujourd'hui? On a aujourd'hui dans l'enseignement supérieur des formations qui sont d'aussi bonne qualité et qui sont ouvertes au grand public. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est la démocratisation de l'enseignement supérieur et pas autre chose. Et la démocratisation de l'enseignement supérieur, ça nécessite des moyens.
Est-ce que, dans le fond, il n'y a pas une volonté des gouvernements successifs de laisser pourrir la situation dans les universités en misant sur le secteur de l'enseignement privé pour éponger les surplus d'étudiants à terme, pour les étudiants évidemment les plus chanceux qui peuvent payer ?
Et qu'est-ce que ça donnerait à terme ? Ça voudrait dire que uniquement les personnes qui ont les moyens pourraient suivre une formation dans l'enseignement supérieur ? Je ne pense pas que ce soit ce qu'on veuille en France.
Mais c'est déjà le cas. Les familles qui ont les moyens vont tout faire pour ne pas envoyer leurs enfants à l'université parce qu'elles savent que c'est chaotique, Anne Roger.
De fait, effectivement, à partir du moment où il n'y a pas un volontarisme politique fort sur la défense du service public de l'enseignement supérieur aujourd'hui, la démocratisation est en panne, quoi. Et donc, on ne débloque pas vraiment les moyens que l'on réclame depuis quelques années, on va à la catastrophe pour l'enseignement public. En
Alors
tout cas.
Justement, qu'est-ce que demandent vos syndicats respectifs pour le SNESUP, pour les enseignants?
Je l'ai déjà dit à mot couvert, entre guillemets. Je veux dire, il faut absolument pour le moment recruter des enseignants titulaires, et on demande un plan massif de recrutement d'enseignants titulaires et un investissement aussi. Par exemple, dans le parc immobilier, on a pour accueillir des étudiants, il faut construire. Enfin, ça, il n'y a pas de secret. Et le plan de relance annonce 4 milliards d'euros, il en faut 8 pour vraiment construire les universités. Aujourd'hui, il manque 2 universités moyennes en France.
C'est l'équivalent énorme. De deux universités
l'équivalent
moyennes
de deux
pour
universités.
Accueillir le surplus d'étudiants.
Pour accueillir le surplus d'étudiants.
Un surplus d'étudiants qui va se poursuivre dans les années à venir.
Évidemment, c'est pas fini.
Que demande la FAGE, le principal syndicat étudiant, le syndicat majoritaire?
Donc pour les jeunes, ça va être des mesures qui ne sont pas un simple pansement sur une jambe de bois pour en les accompagner déjà financièrement avec une réforme plus structurante et plus englobante du système de bourse. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, pour donner un petit exemple, qui se retrouvent sur une rattachés à un foyer fiscal d'une catégorie socio-professionnelle moyenne-basse,
ouais.
Et dont les parents ne peuvent pas aider ces jeunes-là, mais qui ne peuvent pas non plus être bénéficiaires de bourses sur critères sociaux.
En langage plus simple,
C'est-à-dire qu'ils sont dans l'entre-deux, ils ne peuvent pas avoir d'aide de leurs parents ni de l'aide de l'État, tout simplement.
Donc vous demandez un élargissement de l'assiette de l'accès aux bourses,
totalement.
C'est ça ?
Plus, effectivement, donc une... On va dire que les bourses fonctionnent par effet de seuil à l'heure actuelle. C'est-à-dire que, encore une fois, un foyer sur lequel est rattaché fiscalement un jeune va gagner peut-être 5% de plus sur une année, ce qui fait baisser l'échelon de bourse à destination des jeunes, qui du coup, in fine, touchera 200, 300 parfois euros de moins sur une année, par mois.
Et qu'est-ce que vous demandez pour les étudiants en grande précarité à l'heure actuelle ?
En grande précarité, c'est déjà dans un premier temps une simplification des aides d'urgence. Il y a quelque chose qui s'est très bien fait en réalité pendant la crise sanitaire, c'était les aides spécifiques délivrées par le réseau des œuvres, par le CROUS.
Les œuvres universitaires.
Tout à fait, il y a eu une simplification des aides, c'est-à-dire que pour pallier une perte drastique de revenus ou une augmentation directe des dépenses, il y a des aides qui existent pour ça. Mais qui ne sont déjà d'une pas forcément connues, et de deux qui demandaient certaines démarches administratives, ce qui a été très simplifié pendant la crise sanitaire.
Et qui étaient ponctuelles ? Ce sont des aides ponctuelles, c'est-à-dire à un moment donné du parcours de l'étudiant ?
C'est ça.
Ouais. Et vous, qu'est-ce que vous demandez du coup ?
Alors, déjà une simplification de ces aides-là, dans un premier temps, une revalorisation du système de bourse. Pour que les jeunes puissent avoir un minimum. On ne demande pas non plus à ce que les jeunes puissent vivre dans un confort, dans le luxe. On demande juste qu'ils puissent vivre décemment. Et à l'heure actuelle, il y a trop de jeunes qui ne peuvent pas vivre décemment, d'une part parce qu'ils n'ont pas les moyens du fait des lacunes du système de bourse, du fait du manque de logement également, qui concerne les établissements de l'enseignement supérieur, mais également le parc locatif. Il y a trop de jeunes aujourd'hui qui n'ont pas de logement, qui est pourtant un des vecteurs de réussite pour l'enseignement supérieur.
On ne construit pas assez de logements étudiants. Et les aides, les fameuses APL, ont fait finalement augmenter le prix du marché de la location étudiante.
Alors, quand elles ne sont pas baissées.
Elles n'ont pas été baissées beaucoup, quand même.
Oui, mais c'est quand même une mesure. 5 euros, si vous voulez, de baisse pour les APL. 5 euros dans nos épiceries sociales et solidaires, c'est une semaine et demie de nourriture pour les jeunes.
Donc, je ne sais pas si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, mais il me semble qu'aujourd'hui, quand même, on dit et on a vu que la jeunesse était une des premières victimes de la crise sanitaire. Et il me semble que l'université, elle a un grand rôle à jouer dans cette crise et dans l'aide à donner à la jeunesse. Et pour le moment, le gouvernement n'en prend pas la mesure. Toutes les mesures qui sont annoncées n'intègrent pas suffisamment l'université.
Et pour aider les jeunes à... avoir un avenir, évidemment. Merci à tous les deux, Anne Roger du SNESUP FSU, Syndicat National de l'Enseignement Supérieur. Merci à vous, Paul Maillot, de la FAGE, Syndicat étudiant. Dans quelques instants, comme chaque semaine, ce sera la chronique du psychologue Ibrahima Girou à Dakar, parents, enfants d'ici et d'ailleurs. À retrouver d'ailleurs également en podcast, ce sera juste après I Am African. I'm a black man, I'm an African, and my parents are Jamaican. And I grew up in a London, so you know I know where I'm coming from. I'm a black man, I'm an African, and my parents are Jamaican. And I grew up in a London, so you know I know where I'm coming from. I know where I'm coming from, I know where I'm going. It's a positive energy, I keep on showing respect myself, respect my roots, and respect my ancestors. I can't forget Marcus Garvey, Malcolm X, and Robert Nesta. Teach us to educate our sisters and our brother. Teach us to unify and support one another. One God, one aim, and one destiny. How that the way we want in our community. So, well, I'm a black man, I'm an African, and my parents are Jamaican, and we grew up in a London, so you know I know where I'm coming from. I'm a black man, I'm an African, and my parents are Jamaican, and we grew up in a London, so you know I know where I'm coming from.
coming from? Coming from the natural continent, the motherland with natural resources, minerals and diamonds. Anywhere you plant, well, you know it if you grow. Africa, it is a place where everybody want go. Like Addis Ababa, Ina, Ethiopia, Lagos, Nigeria, Nairobi, Kenya, Azerbaijan, in the Ivory Coast. And them the place that me want visit the most, cause my parents were captured, taken to Jamaica by the British and the Spanish colonial masters. In 1962, them get them independence, and them fly go a Britain for some pound and pence. So
I'm a black man, I'm an African, and my parents are Jamaican. Then I grow up in a London.
On est plus le fils de son époque que le fils de son père.
Enfants d'ici et d'ailleurs, c'est la chronique du psychologue Ibrahima Girou à Dakar. Bonjour Ibrahima.
Bonjour Emmanuel et bonjour à nos voisins, à nos voisines.
Vous êtes psychologue, vous collaborez à l'UNICEF et aujourd'hui un nouveau questionnement qui porte sur l'enfant qui grandit toujours. Malgré les inquiétudes des parents, nous dites-vous, l'enfant trouve toujours un chemin pour se développer. En êtes-vous si sûr, Ibrahima Girou?
Emmanuel, je vous ai déjà raconté comment les toile que j'avais mise, vous vous souvenez, pour protéger mes plantes du soleil, avait fini par tuer beaucoup d'entre elles.
Oui, vos fameuses tomates qui avaient trop chaud.
Et bien, j'avais fait pousser sur deux tables de jardinage deux variétés de tomates, les cœurs de bœuf un peu, et puis une variété un peu plus locale. Et les deux cœurs de bœuf ont récupéré plus vite du stress que ma protection avait causé, mais ils étaient tout de même différents et ne grandissaient pas au même rythme. Les tomates locales ont, elles, mis beaucoup plus de temps au point que j'ai pensé à les retirer et à les arracher. Mais mon ami Laurel m'en a dissuadé et m'a convaincu de patienter. Quelques mois plus tard, quelle ne fut, Emmanuel, ma surprise, toutes avaient grandi et les tomates locales ont refait leur retard et même dépassé les cœurs de bœuf en taille, comme en production.
Ah oui, ça c'est quand même assez incroyable. Qu'est-ce qu'on se dit dans ces moments précis quand vous voyez que tout se met à produire, beaucoup de tomates, alors que vous avez failli arracher certaines tomates?
Tout à fait, non. J'ai remercié au fond de moi mon ami Laurel qui m'a demandé de patienter. Toutes ces notions de patience, de persévérance se sont allumées et ont pris du sens en moi.
Alors justement, j'allais y venir, parce que tout ça, quel rapport? Est-ce que c'est la même chose avec les enfants?
Tout à fait, ça me fait également penser, c'est vrai, aux familles que je reçois en consultation et qui s'inquiètent que leur petit dernier, par exemple, ne soit pas comme ses aînés ou ses autres camarades de classe. Les parents s'inquiètent comme si la vie de leur enfant était en danger et pensent que son avenir est compromis, Emmanuel, s'il ne parvient pas à redresser la barre aujourd'hui et maintenant, et à se remettre immédiatement sur le droit chemin. Le droit chemin, bien entendu, celui que les parents peuvent comprendre et imaginer.
Oui, alors en gros, vous dites aux parents qu'il faut patienter, que tout le monde va se retrouver après à un certain niveau. Comment vous pouvez convaincre les parents que ça va s'arranger? D'ailleurs, comment ça s'arrange naturellement avec le temps? C'est pas aussi simple quand même que les plants de tomates?
C'est beaucoup plus complexe, c'est vrai. Disons que la difficulté du psychologue dans ces situations-là, avec les parents qui sont un peu angoissés, c'est un peu en partie lié au fait que les parents croient qu'ils sont dans l'urgence. Ils veulent donc une solution immédiate qu'ils espèrent possible, et vraiment tout de suite. Les parents tiennent un raisonnement qui est très acceptable, très, très rationnel, et sont donc dans leur logique, leur vérité, et pour couronner le tout, c'est leur enfant et ils veulent son bien. Donc il y a encore beaucoup d'arguments.
Ils veulent faire le bien tout de suite, ils veulent des solutions tout de suite. Oui.
Il faut une solution tout de suite. Et comme si cela ne suffisait pas, la société, l'école, sont toujours là, prontes à culpabiliser un peu l'enfant, parfois les parents, au lieu d'aider à trouver une solution. Autant donc de façons de penser qui légitiment l'empressement des parents. Donc, en aidant le parent à comprendre que c'est lui la solution et non pas moi, le psychologue, le parent s'ouvre à l'exercice d'identifier quels sont ses meilleurs atouts, ses meilleurs alliés. Et il finit par comprendre que c'est la patience, son meilleur allié. Il comprend aussi que les problèmes se sont complexifiés au cours du temps et qu'il est donc en conséquence raisonnable, Emmanuel, de prendre du temps pour les simplifier.
raisonnable de prendre du temps pour les simplifier. Ça, c'est...
Oui.
Je ne sais pas si c'est simple comme feuille de route pour les parents.
Voilà, c'est pas simple. C'est tout sauf simple. Mais ensuite, Emmanuel, imaginons que nous soyons tous invités au palais du roi à 3h, heure du monde. Permettez-moi cette façon de parler.
Oui, 3h, heure du monde.
Imaginons que vous arriviez, vous, à 2h30 et que moi, j'arrive à 3h, donc à l'heure.
Oui.
Certains diraient que vous, Emmanuel, vous êtes en avance sur moi au lieu de dire que vous êtes arrivé avant l'heure.
Exact.
En réalité, je ne peux pas être en retard sur vous puisque moi, je suis quand même arrivé à l'heure.
Oui, oui, exact.
Ce qui fait que vous n'êtes pas en avance sur moi, mais vous êtes en avance peut-être sur vous-même.
Oui, et à 3h du monde, on est là tous les deux.
Tout à fait, Emmanuel.
Et pourquoi vous dites 3h du monde ?
C'est exactement ce que vous dites, Emmanuel. La réalité, c'est qu'à partir du moment où la Terre tourne, et que la vie est partout présente, il fait toujours 3h quelque part. Et il y aura toujours des opportunités à saisir pour développer nos enfants. La société doit alors, Emmanuel, aider l'enfant à trouver son 3h, le 3h qui lui correspond, en diversifiant les façons d'apprendre, les canaux pour réussir. Et on ne doit pas dire que si tu ne vas pas à l'école, tu ne réussiras pas ta vie.
Réussir et s'épanouir aussi, ce n'est pas que de la réussite scolaire.
Exactement, c'est ça, c'est vraiment de l'épanouissement, c'est du développement de l'enfant.
Ça peut être par le sport, par les arts, par beaucoup d'autres choses.
Ouais, la musique. Par l'art, par vraiment toute une série de choses, qui, c'est des milliards d'opportunités en réalité qu'il ne faut pas négliger. Et à partir de là, faire comme si, ou faire en sorte que celui qui ne réussit pas à l'école est condamné à échouer sa vie, c'est vraiment légitimer une sorte de violence qui est faite aux enfants. Condamner également un enfant ou un élève à un échec certain, y compris parfois même avec des preuves factuelles dans les raisonnements, des raisonnements très concrets, c'est aller un peu trop vite en besogne. Au contraire, nous devons faire évoluer nos familles, Emmanuel, et nos écoles pour qu'elles deviennent non pas des cadres de vie, mais des espaces de toutes les chances pour nos enfants. Vous savez qu'en France et dans d'autres pays, on a testé ce qu'on appelait à l'époque l'école de la seconde chance. Vous vous souvenez de ça?
Ça existe toujours.
Dans beaucoup de pays. Mais on n'a pas eu beaucoup de réussite avec l'école de la seconde chance parce que c'est toujours un cadre qu'on a mis et non pas un espace. Ouais. Vraiment repenser en profondeur pour pouvoir accueillir les nouvelles formes d'apprentissage, accueillir les familles, les communautés, un espace intelligent.
Oui. Où il y aurait, pourquoi pas d'ailleurs, du jardinage et des cahiers de jardinage pour les enfants.
Sans aucun problème, mais vraiment ouvrir le monde des apprentissages parce que les connaissances sont présentes et ça doit être démocratisé. Et abolir surtout, vous voyez, ces systèmes de notes et de comparaison entre les enfants. Ça fait beaucoup de mal aux enfants. Vous voyez, et si on fait ainsi, on peut outiller les enfants, outiller les parents, outiller les enseignants, vous voyez, à construire et à paver ensemble les chemins de la réussite et de l'épanouissement.
Et tout ça nous mène à la question de la semaine à méditer avec vous, Ibrahima Girou, pour les parents et les enfants.
Pourquoi parler à votre enfant comme si les portes du palais vont se fermer définitivement devant lui, alors qu'il fait toujours 3h quelque part sur Terre ?
Je crois qu'on a bien compris votre métaphore avec cette histoire de rendez-vous où chacun arrive toujours finalement à son heure. Merci beaucoup, Ibrahima Girou, d'avoir été en ligne avec nous grâce aux moyens techniques de RFI Mandincan et Foulfoulde à Dakar. Ibrahim Ba était à la technique et vous, on vous retrouve, Ibrahima Girou, la semaine prochaine pour d'autres conseils aux parents. Et tous les conseils du psychologue Ibrahima Girou pour les parents sont à retrouver en podcast. Toutes les chroniques sur les plateformes de téléchargement. Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs. C'est le titre de la chronique et le lien est aussi sur le site RFI.fr à la page des 7 milliards de voisins. Merci à toute l'équipe aussi à Paris. Cécile Lavolo, Delphine de Dianous, Romain Dubrac, Didier Cherousse. Demain, 7 milliards de voisins, journée mondiale du lavage de mains. Et une question plus aiguë que jamais en ces temps de coronavirus. Quel accès à l'eau et à l'assainissement? C'est aussi le dixième anniversaire du droit à l'eau et à l'assainissement. 785 millions de personnes manquent encore d'un service élémentaire d'eau potable, en particulier dans les zones rurales. Alors comment faciliter l'accès à l'eau pour tous? Avec quel financement? Quel prix décent aussi pour les usagers modestes? Racontez-nous comment vous avez accès à l'eau, combien vous payez et à qui sur nos